le croque-philo proposé par Émilie. Bonsoir Émilie.
Bonsoir Ali.
Bonsoir.
Je suis ravie.
Alors moi j'entends un écho, je ne sais pas si vous l'entendez en studio.
Nous on t'entend plutôt très bien.
D'accord, alors moi ma voix résonne énormément. Alors bonjour Ali, bonjour Mélie et bonjour à tous. Très bonne et heureuse année à vous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce premier croque-philo 2021 et je vous souhaite une très bonne et lumineuse année nouvelle, hein, faite d'étonnements curieux, d'enrichissements joyeux, de petites et grandes satisfactions de tout ordre, y compris bien sûr philosophiques. Pourquoi pas, en effet, cette année découvrir, approcher ou approfondir cette discipline au-delà des apparences pour mieux penser la réalité, pour mieux penser nos réalités. Pour ceux qui s'en souviennent, et pour vous qui rejoignez peut-être cette chronique pour la première fois, nous avons débuté la saison en septembre dernier en lançant ici une invitation à philosopher comme un nécessaire étonnement sur le monde et nos existences. Aujourd'hui, pour croquer cette rentrée 2021 en philosophie dans l'oreille curieuse, comme un nouveau commencement, je vous propose d'interroger la notion de changement. Pour vous qui nous écoutez, l'heure est peut-être venue de changer de travail, d'appartement, de régime alimentaire, de ville, de look, de perspective ou d'aspiration.
Mais moi, j'ai déjà envie de te dire merci beaucoup pour tous tes vœux, Émilie. Et je me dis que peut-être la nouvelle année, c'est le moment pour beaucoup d'entre nous de prendre des bonnes résolutions.
Alors oui, effectivement... on n'échappe pas à cette tradition. Après, au-delà du passage de l'étape qui marque vraiment la nuit du 31 décembre au 1er janvier et de toutes les incertitudes qui sont les nôtres, sanitaires, politiques, écologiques, culturelles, qui accompagnent ce changement d'année, qu'est-ce qui change finalement? Et quand on prend des bonnes résolutions ou quand on souhaite les prendre, vers quoi on tend? Qu'est-ce qu'on attend finalement dans cette nouveauté de ce changement? Qu'est-ce qui change quand nous changeons d'année? L'année nouvelle est-elle un recommencement? Peut-être le fantasme d'un nouveau départ qui viendrait, avec l'achèvement de l'année écoulée, nous porter à de meilleures performances, de meilleures décisions, de meilleures actions? Est-ce à l'image de nos vœux échangés l'annonce du meilleur avenir? Ce qui est certain, c'est que nous avons sans doute cette année, plus que d'habitude, besoin de redonner du sens à nos engagements et à nos activités, alors que nos repères sont chamboulés et que nos perspectives sont peu claires et peu assurées. Derrière la convention sociale du changement d'année, des traditionnels vœux échangés qui l'accompagnent, ce changement peut parfois sembler peu signifiant tant nos réalités sont contraintes, nos désillusions parfois profondes. Il y a la marche du monde, et puis il y a nous au sein du monde. Comme si rien ne changerait vraiment de toute façon et que seules les conventions calendaires faisaient de ce passage, de ce changement, un tournant. Donc il y a parmi nous ceux qui critiquent justement la superstition, qui ne voient dans le moment dévolu à faire des choix pour la nouvelle année qu'une manière de se livrer au destin, ceux qui idolâtrent l'année nouvelle comme une promesse de dépassement et de renouveau nécessairement vers le bien, vers le beau. Donc, y a-t-il trop d'attentes? Y a-t-il pas assez d'attentes? Peut-on être vraiment indifférent à ce passage? Échapper à cette sensation impalpable, à l'euphorie générale du changement d'année et des résolutions? Derrière la convention sociale, qui peut parfois sembler peu signifiante, au regard de nos réalités, au-delà de nos espoirs et de nos illusions, peut-être, quelle nouveauté peut bien apporter l'année nouvelle? Je vous lis un extrait du Gai Savoir de Nietzsche, qui est l'aphorisme, un aphorisme au cœur du quatrième livre du Gai Savoir, qui s'appelle Fin janvier. Voilà ce qu'écrit Nietzsche dans le Gai Savoir. Pour la nouvelle année, je vis encore, je pense encore, je dois encore vivre, car je dois encore penser. Sum ergo cogito, cogito ergo sum. Je suis, je pense, j'existe. Aujourd'hui, chacun ose exprimer son vœu et sa pensée la plus chère, Soit, je veux donc dire moi aussi ce qu'aujourd'hui je me souhaitais à moi-même et quelle pensée a été, cette année été la première à traverser mon cœur. Quelle pensée doit être le fondement, la garantie et la douceur de toute pensée à venir? Je veux toujours plus apprendre à voir la nécessité dans les choses comme le beau. Ainsi serais-je l'un de ceux qui rendent belles les choses. Amor fati, que cela soit à présent mon amour. Je ne veux mener aucune guerre contre le lait, je ne veux pas accuser, je ne veux pas même accuser les accusateurs. Que détourner le regard soit mon unique négation. Et en tout et pour tout, et en grand, je veux, en n'importe quelle circonstance, n'être rien d'autre que quelqu'un qui dit oui. Alors ici avec Nietzsche, plus que la promesse de la nouveauté, il dit vouloir apprendre à voir la nécessité des choses comme le non-rejet de ce qui nous déplaît. Mais considérer plutôt que le changement d'année est un accès possible pour être et pour penser, quel que soit ce qui est et quel que soit comment cela est. Il ajoute même que c'est peut-être la manière de rendre belles les choses sans vouloir rejeter ce qui est laid, mais en l'intégrant et en s'en détournant, si les choses qui nous importunent prennent trop de place ou ne vont pas dans le sens que l'on attend.
Et alors, il ne serait question que ni d'échapper au destin, ni d'échapper au monde ?
Alors, effectivement, pour Nietzsche, on n'a pas l'assurance de pouvoir maîtriser ce qui se passe. On a une non-assurance de la réalisation de nos vœux. Et dans cet aphorisme, qui est une ode même à la vie même, il est question de choisir la vie, sans renier ce qu'il y a de sombre, de dramatique en elle, mais qui ne demeure pas moins pourtant opposé à elle, qui en fait juste la teneur complexe, exigeante, parfois, selon ce qui traverse l'existence. Et nous la traversons tous différemment. Nous avons des désaccords sur ce qui est, par exemple, essentiel ou non. Ne pas vouloir fêter la nouvelle année ou refuser les échanges de vœux, ce serait donc effectivement une vaine tentative d'échapper au monde qui est, de toute façon, avec ou sans nous, en train de marquer le pas d'une continuité avec cette année nouvelle, mais aussi d'une rupture qui survient. Résumons donc. Le changement serait l'essence même du réel dans tous les domaines. Une forme de nécessité. On ne pourrait pas être autrement. Et pourtant, on se souhaite quand même du changement, du mieux, du meilleur. On souhaite ce qui n'est même pas certain de se produire. Le vœu semble par essence souligner l'incertitude et notre rapport de soumission au réel. Et si le vœu était ce qui justement appelle le mouvement à se produire, en l'intégrant, en l'invitant, en l'acceptant, comme Héraclite entend l'univers qui, bien que limité, est cyclique, toujours en mouvement, tel un flux temporel unissant les contraires. Héraclite. Alors Héraclite, un personnage, un philosophe du 7e, 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ, il est rationaliste et il critique les faiseurs de mythes. Il entend développer la connaissance universelle et il s'attache au thème de la guerre, de la justice, au statut ontologique des choses, c'est-à-dire à l'être des choses, à la nature des choses qui existent et à leur nécessité. On ne dispose de ces écrits que des fragments et de témoignages dans les œuvres des stoïciens, dans les œuvres de Platon, d'Aristote, des épicuriens. Ainsi dit-il que tout se fait par l'opposition des contraires. Vous voyez, il ne rejette pas l'idée des contradictions ou de ce qui peut nous perturber dans notre réalité, mais au contraire, comment il invite à penser que les contraires agissent ensemble et que c'est ce qui crée finalement notre réalité. Et l'autre chose que vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, déjà entendu, c'est que pour Héraclite, tout coule comme un fleuve. L'univers, selon lui, il est limité, il n'y a qu'un monde qui a été créé par le feu et qui retournera d'ailleurs au feu après certaines périodes, éternellement. C'est le destin, la nécessité qui le veut ainsi. Le feu est pour lui un élément et tout se fait par des transformations des éléments, notamment il transformation du feu, soit celui-ci se raréfie, soit il devient au contraire plus dense. Et il détaille ainsi toute une forme de physique des éléments entre eux, mais sans expliquer véritablement ses affirmations. Elles seront reprises notamment par des auteurs comme Aristote et ceux que l'on appelle les pseudo-Aristote, qui s'inscrivent dans sa pensée, mais aussi les épicuriens, avec toute une tradition matérialiste qui essaye d'expliquer la réalité par la matière et les éléments. Aussi donc pour Héraclite, pas besoin selon lui de rejeter ce qui est négatif. Ce n'est d'ailleurs pas possible, car la guerre, le conflit, la haine vont de pair, se définissent les unes par rapport aux autres. Et au sein du logos, qui est pour lui une forme de rationalité, dans le sens d'une proportion universelle des choses, il y a une harmonie des contraires. En cela, vouloir raser l'année passée en appelant de ses voeux le destin à éloigner tout le mal n'a pas de sens. Le destin, selon lui, c'est un ordre nécessaire et rationnel, une harmonie des contraires qui, justement, accorde la concorde, la paix, l'ordre qui a donné lieu à la nature, au moyen de l'action des contraires. Selon le témoignage d'un auteur stoïcien à propos d'Héraclite, on peut comparer la nature à l'art qui l'imite. Comme l'art, qui mélange les pigments pour donner à voir la forme, ou à la musique qui articule des sons aigus, graves, longs, courts, pour créer des harmonies justement uniques. Voilà quelques mots d'un fragment d'Héraclite en ce sens. Embrassement, tout et non tout, accordé et désaccordé, consonant et dissonant, et de toute chose l'un, et de l'un toute chose. Ainsi, pour lui, le différent concorde avec lui-même. Tout se fait dans le monde par des transformations, notamment de l'élément feu, ce qui en fait un élément éternel. Tout est une affaire de proportion dans l'essence des choses et de mouvement des contraires sur une période donnée. Entre contraires, il y a une lutte qui aboutit à la création, c'est ce qu'on appelle la guerre et la querelle. L'autre qui aboutit à l'embrasement, c'est ce qu'on appellerait la concorde et la paix. Héraclite pense que le monde s'embrase et qu'à un autre moment, il se reconstitue de nouveau lui-même à partir du feu, selon certaines périodes de temps, dans lesquelles il s'allume et s'éteint en mesure. Les stoïciens partageront plus tard d'ailleurs cette thèse de l'embrasement universel en considérant que le feu est l'élément des réalités et que grâce à lui, toutes les choses du monde se trouvent assemblées de manière réglée. Et au-delà même, Platon va aller jusqu'à dire que le feu a ce rôle dans l'ordre d'une république bien gouvernée. C'est-à-dire, même en matière politique, il existerait un ordre naturel des choses auquel le feu participe. Et dans le changement, le monde existe selon un principe éternel, donc selon Héraclite. Et il y a d'ailleurs une théorie que l'on appelle celle de la grande année, qui est issue de cette théorie de l'embrasement, qui était commune aux astronomes et aux philosophes grecs à l'Antiquité. La grande année, c'était la fin du cycle marqué par le retour des planètes à leur position initiale. C'était la nature qui s'étend, qui se déploie à nouveau par une action de réintégration de l'univers.
Et c'est quoi cette histoire de fleuve que tu mentionnais tout à l'heure ?
Alors oui, c'est effectivement une référence célèbre que l'on fait souvent à Héraclite. On ne se baigne jamais deux fois dans un même fleuve, vous l'avez peut-être lu, entendu. Pour Héraclite, tout passe et rien ne demeure. Et il compare toute chose qui est à un fleuve. En ce sens, pour lui, on ne saurait entrer deux fois dans un même fleuve, car comme tout, le fleuve coule et donc il n'est jamais tout à fait le même et les hommes changent aussi. Donc le changement pour Héraclite, c'est le flux. Ainsi, comme le dira Aristote, pour Héraclite, le soleil est nouveau chaque jour. Mais une chose demeure, tout de même chez lui, c'est le logos. Il est commun à tous. Il est l'universalité de la loi naturelle, celle qui exprime la nécessité des choses, et elle s'exprime par la raison. Tout homme a une forme d'âme immortelle pour Héraclite. Il y a en nous une parcelle de divin, de feu céleste, et tout homme peut choisir de mener une vie raisonnable selon la nature et la loi du destin. Et si Nietzsche nous invitait au départ à penser encore quand vient l'année nouvelle. Pour Héraclite, pour qu'il ait le ghost commun et le feu qui réintègre l'univers. Pour lui, penser est commun à tous. D'ailleurs, pour comprendre Nietzsche et cette forme de dépassement d'un pessimisme qui le caractérise en partie dans ses premiers écrits, le fait, dans son aphorisme du gai savoir tout à l'heure, de dire oui à l'année nouvelle, nous fait remonter au présocratique qu'il avait lu et étudié, et précisément à Héraclite, dont il se réclame souvent. Il invite donc cet aphorisme à un pessimisme qui ne renie pas la nécessité des choses, mais qui saisit la grandeur du commencement. En revenant au présocratique, il se saisit de la question du devenir qu'il admirait chez Héraclite, et notamment, je cite Nietzsche dans Le Gai Savoir, « On doit absolument pouvoir montrer que tout ce qui est, être ou objet, n'a pas toujours été et ne sera donc pas toujours. » Le devenir d'Héraclite. Donc le tragique de la nécessité chez Nietzsche, c'est du mouvement, un peu comme dans la danse. Et comme dans la danse, le mouvement idéal n'existe pas. Dans le gai savoir, Dieu est mort pour Nietzsche. Il n'y a plus de référent ultime et nos valeurs ne sont plus transcendantes et éternelles, mais nous avons à les penser. Ainsi, quand il écrit un an après le gai savoir, ainsi parlait Zarathustra et qu'il le fait danser dans son œuvre, Zarathustra est celui qui porte une quête du mouvement authentique, nécessaire et intérieur. C'est une dimension tragique de l'homme qui s'expérimente dans le mouvement, avec ce que la danse porte de tragédie. Et si la liberté portait dans le mouvement, qui était la condition même de tout commencement? Et si nous envisagions cette année nouvelle comme s'il avait neigé toute la nuit et que nous pouvions marquer nos empreintes au matin dans la neige fraîche, comme si la neige tombée rendait possible ces nouvelles empreintes? Et nous invitait à continuer le mouvement. Et même si tout recommence et que rien n'a changé véritablement, saisir et garder aussi longtemps que possible l'impression heureuse d'un basculement suspendu. Et si tout recommence, il ne tient peut-être qu'à nous que ce ne soit pas tout à fait comme d'habitude, si l'on accepte de se gagner collectivement par ce que signifient les vœux, les souhaits, qui à défaut de nous garantir les changements souhaités, garantissent le mouvement. Avec Héraclite, on peut peut-être... plus à propos et plus sagement, dire feu 2020 et vive 2021.